Marie-Claude Lortie, bonjour, aïe.
Salut Mathieu.
MC Gilles, bonjour, aïe.
Bonjour, aïe, fuego.
comment allez-vous, chers amis?
Très bien, merci.
Ça a été une grosse semaine. Bon, on a été dans le bonjour, aïe, on a été dans le vocabulaire genré, on a été dans les récréations qu'il fallait annuler parce que c'est trop long à habiller les petits. Grosse semaine d'actualité, on est en train de refaire le Québec carrément. Sur le bonjour, aïe, t'en pensez quoi de ça, de cette polémique, si on peut dire ainsi?
Marie-Claude, vous habitez dans l'Ouest, je vais vous laisser commencer.
Moi, ça m'énerve un peu à chaque fois parce que je me dis bonjour. La salutation de départ, c'est la chose la plus facile à apprendre, peu importe la langue dans laquelle on est. Combien de fois on va dans un pays puis on dit buongiorno, puis après ça, on ne sait plus comment continuer la phrase. Mais au moins, on sait ça. On sait comment dire bonjour, on sait comment dire merci, généralement. Fait que je vois pas la nécessité de dire bonjour, hi, là, surtout si ça énerve les gens. Cela dit, ce qui m'énerve complètement dans ce débat linguistique, je radote, mais je radote avec plaisir, c'est pourquoi est-ce qu'on s'accroche sur ce genre de détails, alors que dans la phrase suivante, on fait à peu près 12 anglicismes, puis dans la phrase suivante, encore plus. La qualité du français est en perdition. Là, j'ai l'air d'une grand-mère en disant ça, mais je m'en fiche. Moi, ça me décourage complètement de voir à quel point on mène des batailles sur des virgules alors que pendant ce temps-là, tout l'édifice est en train de s'écrouler. Moi, je crois vraiment que c'est là qu'il faut agir. Je vais encore avoir l'air d'une grand-mère en disant que les textos, tout le vocabulaire, tous les échanges sur les réseaux sociaux entre les jeunes contribuent aussi à la dégradation de la qualité de la langue parce que on prend des raccourcis hallucinants. Les fautes d'orthographe, c'est rendu comme on s'en préoccupe même plus. Des gens nous envoient des messages écrits, c'est incompréhensible parce que on n'a jamais saisi la différence entre un E accent aigu, EZ et ER, ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les gens veulent dire. Mais tout ça, c'est ringard, tout ça, c'est des batailles d'hier, puis on s'accroche sur bonjour, hi. Voilà, c'est ça que j'ai à dire.
MC, toi, t'es un digne représentant de Schlagamaison-Neuve et de Sainte-Anne-de-la-Pérade en même temps.
Oui. Écoute, sur le français, je suis assez d'accord avec toi. Évidemment, ça paraît plus aujourd'hui parce qu'on est devenu dans une société écrite, plus chorale. Avant, les gens parlaient, bon, les gens échappaient à un savate-tête puis un si-j'arrête.
Un salat.
Ouais, un salat. Maintenant, on le voit plus parce que les gens écrivent. Et c'est vrai que sur Twitter, sur Facebook, bon, c'est assez... Pour venir au bonjour, hi, moi, je pense qu'il faut que les gens... Ce qui me fatigue, c'est que les personnes... on parle beaucoup des personnes qui nous accueillent, mais nous, on doit aussi, dans un magasin, faire notre part. Et je vois beaucoup de monde qui font même pas l'effort, eux non plus, de parler français. Je parle de nous. C'est-à-dire que quand moi, je me fais accueillir par bonjour, hi, même quand quelqu'un parle pas du tout français, je lui parle en français quand même. Avec le sourire, je suis très gentil, je vais lentement, je peux répéter deux fois si la personne ne comprend pas. Je peux aussi même utiliser quelques mots d'anglais si la personne a besoin d'aide. Mais je pense qu'il faut utiliser, c'est notre responsabilité d'utiliser le français. Donc, si quelqu'un me dit bonjour, hey, je dis bonjour, vous allez bien, oui. Hier soir, je suis allé au Canadien de Montréal, j'étais au restaurant juste en face, la serveuse ne parlait pas français. Et puis, j'ai commandé en français, j'ai dit bonjour, oui, et relativement inacceptable. Ce que je trouve particulier aussi, mais ça, c'est le pays dans lequel on vit, je vais vous donner un exemple concret. Dans nos juges à la Cour suprême, c'est quand même pas rien, là, les personnes qui décident de ce qui est la loi et non. Donc, c'est le dernier rempart de la loi. Il y a des personnes qui sont unilingues anglophones. Et puis, moi, je me suis posé la question, si quelqu'un était une langue francophone à la Cour suprême, le tollé que ça ferait au Canada en disant, et c'est des personnes qui doivent quand même décider sur des lois en français, sur ce qui se passe. Si ça nous dérange pas à ce niveau-là, ben là, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est cette espèce d'injustice-là que quand on est francophone, il faut absolument parler anglais. C'est difficile de trouver un emploi quand on n'est pas bilingue. Et à l'inverse, si vous êtes une langue anglophone, ça n'a pas l'air de déranger certaines personnes qu'on ne soit pas capable de parler anglais, c'est, je pense, un problème.
Mais moi, c'est drôle, j'ai entendu, par exemple, de quelqu'un qui était arrivé ici au Canada, puis qui me racontait, ne parlait pas français ni anglais, parlait une autre langue, a appris l'anglais parce qu'elle avait déjà une base d'anglais, est arrivé ici, avait une meilleure maîtrise, prend le français, mais on lui a dit, tes connaissances pour un emploi de service au départ, alors qu'elle était aux études, on lui a dit, tes connaissances de français sont beaucoup trop minimal pour te faire un travail à Montréal. Apprends le français comme il faut, puis on te trouvera un travail ensuite. Ça existe encore. On a l'impression que ça n'existe plus, puis y a les employeurs s'en fichent, mais c'est pas vrai, là, visiblement. Ça, c'est un cas vécu qui m'a été raconté par quelqu'un qui en a arraché, il faut le dire.
Oui, moi, je pense que c'est important de parler français pour pouvoir fonctionner. Moi, j'ai pris un Uber il n'y a pas longtemps pour aller à l'aéroport et le chauffeur ne parlait ni français ni anglais. Puis c'était l'heure de pointe, puis il fallait que je ne rate pas mon avion. Ça, là, vraiment, là, c'était comme tellement un beau cas de l'importance de la communication. C'est pas une affaire de loi, c'est pas une affaire de principe, c'est pas une affaire de monter sur ses grands chevaux pour des raisons identitaires. C'est vraiment comme, on peut-tu juste se parler? Est-ce que je peux te communiquer le meilleur chemin pour pas que je rate mon avion? Mais là où je veux en venir, moi, c'est que je trouve qu'on fait des batailles. Moi, qu'est-ce qui m'énerve autant que bonjour, hi, savez-vous c'est quoi?
Nickel.
C'est bon matin. Parce qu'on arrive devant un bonjour hi, puis là, on a un vrai débat devant nous. On est là, bon, est-ce qu'on est en train de s'angliciser? Pendant ce temps-là, on est dans un milieu de travail complètement francophone où il n'y a personne qui se pose aucune question. Puis on arrive au travail, tout le monde a un grand sourire. Bon matin, bon matin. Ben, bon matin, je m'excuse, c'est un anglicisme de la pire espèce. C'est une tradition de good morning. En français, on ne dit pas bon matin, on dit bonjour.
Okay? Il y a un pain qui s'appelle bon matin.
Ils peuvent s'appeler comme ils veulent le pain, mais le matin, on dit bonjour. Il y a un mot en français qui existe. Puis dire bon matin, c'est vraiment montrer que...
Tu mets ça
C'est quand même moins pire.
Oui, moi, ça me dérange.
C'est quand même moins pire, Marie-Claude, de parler français et faire des petites erreurs en parlant.
Mais c'est pas une petite erreur. C'est ça. C'est la dégradation de la langue complètement. Puis ça, c'est beaucoup plus insidieux.
Moi, je trouve les Français qui, dans leur publicité, nous balancent leurs expressions. Qui joue ces temps-ci, là. D'une compagnie aérienne que je nommerai pas, là, qui nous balance son slogan en anglais à la fin, plus une traduction ensuite, qui visiblement n'a pas été faite au Québec. Là.
Ben, c'est
ça,
pas
c'est très
mieux.
Français comme façon de faire.
Ben, moi, je
l'ai entendu
pas,
rien qu'en masse.
Je dis pas que les Français sont parfaits, loin de là, avec tout leur shopping puis leur parking. Ça, c'est des clichés.
Leur gratte fruits. J'ai entendu ça.
Voyons donc.
Ah oui.
Gratte fruits?
Oui. Ben, un petit jus. Un jus aux gratte fruits?
C'est la pire que j'ai entendue.
Ben voilà.
Non, mais en France, surtout quand tu dans le milieu de l'informatique notamment, moi j'ai entendu committee room. Je l'ai bien aimé. Mais bon, je dis pas que les Français sont parfaits, mais j'ai jamais dit ça. Mais ce que je dis, c'est que la qualité de la langue, elle passe, la défense de notre langue, elle passe pas seulement dans la lutte contre l'anglais, elle passe aussi dans le fait de la parler comme il faut. Puis si on commence à traduire des mots puis à faire en sorte que ça a l'air du français, mais ça n'en est pas vraiment, on s'avance pas personne. Là.
Mais il y a quand même, détruis pas ma parlure québécoise. Là, moi, mon poisson des chenaux va commencer à Saint-Anne-de-la-Pérade et du bon phrasé, qui est un mot anglais.
Du phrasé.
C'est du phrasile, maudit tout, du phrasé. Pour nous, c'est pas de l'anglais. Un poulamon, c'est un poulamon. Techniquement, c'est pas du français de dire un poulamon, mais c'est un poulamon pareil. Fait que moi, je préfère ça, quand on parle français, oui, de manière un peu cow-boy des fois, que pas parler français du tout.
Mais bonjour, hi, c'est pas non plus pas parler français du tout. Là. Il y a quand même le bonjour dedans. Ce que je veux dire, ouais. Là, c'est qu'il faut... faire la promotion de la qualité de notre langue. Si on veut qu'elle survive, si on veut qu'elle vive,
ça,
si on veut qu'elle soit bonne, si on veut qu'elle soit efficace, si on veut que ce soit un véritable outil pour nous permettre d'être qui on est, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, puis il faut arrêter de la traduire tout croche, puis de la parler tout croche.
On aurait pu adapter cette semaine la chanson de Normand Brathwaite à l'époque, Les larmes de métal, pour celle des larmes de Justin, dans quelques minutes.
Ce soir, je pleure sur notre amour. Ce soir, je pleure.
Est-ce qu'il y a des excuses au programme cette semaine? À l'agenda de Justin Trudeau?
Il y en a toujours, là. Il faudrait qu'il y en ait, mais est-ce qu'il va en avoir d'autres? Je sais pas.
Avec les larmes qui viennent avec ces excuses, et c'est à se demander, est-ce que c'est sincère? Est-ce que les larmes de Justin Trudeau sont sincères ou... On retrouve notre professeur de théâtre qui avait fait le bel exercice avec Patrick Lagacé de débouler les marches là, pour montrer à quel point il l'avait appris à l'école de théâtre. Croyez-vous Justin Trudeau quand il verse ses larmes?
Moi, là-dessus, je suis team Justin, pour faire un bel anglicisme. Je suis équipe Justin, parce que je pense vraiment que c'est sincère. Oui, moi, je pense que c'est complètement sincère. Moi, cela dit, je suis la personne qui pleure en privé, là, généralement quand même, quand je vois une annonce de belle mobilité sur dans le bout de la journée du 11 novembre là, pour rendre hommage aux vétérans. Puis, l'avez-vous déjà vu cette annonce-là? Jour de souvenir?
T'es pas premier ministre.
Non, mais attends, c'est comme c'est un monsieur qui est sur une plage puis qui profite de son cellulaire pour appeler son fils puis qui lui dit... En tout cas, c'est le fils, c'est ça. C'est le petit gars qui appelle son grand-père puis qui dit « Grand-papa, j'ai un téléphone cellulaire, je peux t'appeler d'un endroit spécial. Je suis à Dieppe » ou quelque chose comme ça, ouais. Là, sur les plages de Normandie.
Ouais.
Puis là, c'est moi, là, à chaque fois que je vois cette annonce-là, là, j'ai les larmes qui me coulent. L'idée de rendre hommage aux vétérans pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont... la bravoure dont ils ont fait preuve vient me chercher complètement. Je me mets à la place d'un premier ministre qui décide de... Qui, tu sais, il en revient juste pas, lui. Il est premier ministre, OK? C'est tout le pays là, qui dit aux LGBT, aux gays, on s'excuse de la discrimination dont vous avez été victime. Puis qu'il y a probablement des amis, des gens proches, je ne sais pas si c'est dans sa famille, j'ai aucune idée, mais qui est visiblement touché par ça. Je peux complètement m'imaginer que devant l'immensité de la chose, les larmes lui viennent, mais complètement. Puis moi, ce que je trouve formidable, c'est que c'est un homme, puis qu'il n'est pas là en train de se battre contre ces larmes-là, puis vraiment, tant mieux.
Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie politique, justement? Moi, je pense qu'ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à deux choses. Première chose, c'est oui, montrer que c'est de la nouvelle politique. On le voit avec Valérie Plante à Montréal, ouais. Qui peut crier, qui peut rire quand ce n'est pas toujours le moment, une nouvelle politicienne. Lui aussi représente les nouveaux politiciens. Il montre ses émotions, jeune, porte pas toujours la cravate. Mais je pense quand même qu'il y a une équipe autour de lui qui contrôle un peu ça. Et je pense qu'en pleurant comme ça, ils savent très bien que une vaste majorité de gens liront pas la nouvelle au complet. Ils vont juste voir la clip sur leur téléphone intelligent, sur Facebook, sur Twitter, aux nouvelles. Et ils voient notre premier ministre pleurer, avoir une énorme émotion. Et cette clip-là est beaucoup plus puissante que le message qu'il veut nous dire. Donc, je pense que, oui, peut-être qu'il pleure sincèrement, mais est-ce qu'il y a une stratégie aussi associée à ça? Évidemment aussi, parce que ça le rend sympathique, ça le rend touchant, ça le rend comme nous. Et moi, je sens un peu les ficelles des fois où quand il y a de l'émotion, quand il pousse la note un peu
mais
plus
oui,
fort.
Mais pourquoi est-ce que ça, c'est pire que l'autre stratégie qui est là, faut surtout pas que tu pleures, faut pas que tu pleures. T'es un premier ministre, t'es un président, t'es dans une situation extrême. C'est arrivé combien de fois à travers l'histoire où est-ce que des gens avaient envie de pleurer avec les larmes parce qu'ils étaient pris par une situation XYZ? On peut s'imaginer certainement que c'est arrivé à Churchill, puis je sais pas, puis des présidents américains, puis ils se sont retenus parce que non! Il faut avoir l'air tough, il faut avoir l'air dur,
aussi,
il faut avoir l'air en contrôle, puis les larmes, c'est pas correct.
Oui, mais il y a une question de circonstance aussi. Moi,
de la stratégie dans les deux cas. Pourquoi est-ce que soudainement, c'est si mal de montrer qu'on est humain?
Pas nécessairement de montrer que t'es humain, mais je pense qu'il se met une pression aussi. L'émotion, la prochaine dénonciation qu'il va donner, les prochaines excuses qu'il va faire, il va faire quoi? Il va se rouler en boule par terre en faisant le bacon?
S'il est ému, il fera la même chose. Là, c'est pas...
Je pense qu'il y a un minimum de décorum en chambre. Était le premier ministre, était le chef d'État, le chef de gouvernement.
Il était
parce
quand même
la
pas
reine,
en train de sangloter, là?
Ben, ça allait pas bien, là. Donc, tu sais, on n'est pas occupation double. Tu sais, je veux dire, t'es premier ministre du Canada. Donc, oui, je suis content que mon premier ministre émette des excuses. Oui, je suis content, comme tu dis, qu'il nous montre ses émotions. Mais d'un autre côté, je veux qu'il soit aussi mon premier ministre et qu'il soit assez solide pour livrer un discours sans s'effondrer.
Savez-vous ce qui semble agacer beaucoup de gens? C'est pas qu'on met en doute qu'il pleure, c'est une chose, mais on dit que ça semble à géométrie variable. Quand il y a eu des gens qui ont une famille de Québec qui a été assassinée à l'étranger, les proches ont dit il a été d'une froideur épouvantable au téléphone lorsqu'il a téléphoné. Et il y a des cas comme ça qui reviennent en disant il n'y avait pas de caméra ce fois-là pour cibler le moment-là. Et c'est là pourquoi on met en doute peut-être en disant est-ce que c'est toujours senti profond là? Bref, ça, il y a juste lui qui peut y répondre. Hey, merci à vous deux.
On s'en va pleurer.
Salut bien.
Marie-Claude
et Claude. Bye-bye. Salut bien. À la semaine prochaine.